Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Bouroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce samedi 17 avril 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous présenterons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60%. Les sirènes d'alerte de nouveau déclenchées dans le sud d'Israël. Une roquette a été tirée depuis la bande de Gaza. Et au moins 40 migrants se sont noyés dans un naufrage au large de la Tunisie alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Italie. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Iran a réussi à enrichir de l'uranium à hauteur de 60%, a déclaré vendredi 16 avril le président du Parlement iranien. Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIOA, Ali Akbar Salehi, a confirmé que l'Iran possédait désormais de l'uranium enrichi à 60%. L'enrichissement d'uranium à 60% est actuellement en cours dans les installations nucléaires de Jaïd Ahmadi Roshan de Natanz, dans le centre de l'Iran, a déclaré M. Salehi. S'adressant à la télévision publique vendredi 16 avril, M. Salehi a déclaré « Maintenant, nous obtenons 9 grammes par heure d'uranium enrichi à 60%. » Les scientifiques de Natanz travaillent encore sur la façon d'installer les deux chaînes de centrifugeuses destinées à produire de l'uranium enrichi à 60%, mais en même temps, nous produirons de l'uranium enrichi à 20% avec ces deux chaînes. Il a ensuite nié les rumeurs sur la contamination du site nucléaire de Natanz avant d'ajouter « Nous ne permettrions pas à nos collègues de travailler à Natanz s'il y avait contamination ». S'il y avait eu contamination à Natanz, les inspecteurs ne l'auraient pas visité. Il a également noté que l'Iran est désormais capable de produire de l'uranium enrichi en toutes circonstances. Le chef de l'OIOA a déclaré que l'uranium enrichi à 60% serait utilisé pour produire divers types de radiopharmaceutiques. Le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a protesté contre le double standard des membres occidentaux du Conseil de sécurité à l'égard des armes de destruction massive. Les armes de destruction massive sont les armes les plus immorales et inhumaines jamais fabriquées par l'homme. Et leur production et leur utilisation ont été dûment interdites, car la seule garantie absolue contre l'utilisation de ces armes inhumaines est leur destruction complète, a dit le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies. Néanmoins, l'autorité de ces régimes de non-prolifération et la crédibilité des institutions internationales compétentes ont été sérieusement remises en question et affaiblies au cours des dernières décennies par ceux qui ont abusé des régimes de non-prolifération pour défendre leurs propres intérêts, a souligné ce haut responsable iranien.
l'Iran, victime de l'utilisation d'armes chimiques, condamne une fois de plus fermement l'utilisation de ces armes par quiconque, n'importe où et en toutes circonstances. Il appelle aussi à l'application équilibrée, complète et non discriminatoire de la Convention et à la protection de l'autorité de l'organisation concernée, a conclu le chef de la mission iranienne auprès des Nations Unies. Les sirènes d'alerte de nouveau déclenchées dans le sud d'Israël. Le lendemain du déclenchement des sirènes d'alerte à Sderot, la ville frontalière avec la bande de Gaza, d'autres agglomérations du sud d'Israël, Palestine occupée, ont vu les alarmes résonner. L'armée israélienne informe qu'une roquette a été tirée depuis la bande de Gaza. Dans la soirée de vendredi 16 avril, les sirènes alertant de tirs de roquettes ont résonné à Olit et à Stey Avraham, dans le sud des territoires occupés d'Israël. L'armée du régime sioniste prétend qu'après l'arrivée des informations sur les sirènes, le tir d'une roquette palestinienne lancée depuis Gaza a été enregistré. Le tir n'a pas fait des victimes, prétend l'armée israélienne. Un tir a en outre lieu la veille. L'engin a explosé. La riposte de l'armée israélienne est intervenue la nuit du vendredi. Des hélicoptères de combat ont mené des frappes contre des cibles militaires du mouvement Hamas. En Irak, les États-Unis ont installé une nouvelle batterie de défense anti-aérienne afin de protéger leurs militaires déployés sur ce territoire. Les convois militaires et logistiques des Américains de plus en plus attaqués, ces derniers ont décidé de renforcer leur système anti-aérien. Il paraît que la nouvelle batterie anti-aérienne a été installée et mise en service dans la base militaire Victoria, tout près de l'aéroport international de Bagdad. Selon une source irakienne, Washington n'a pas tenu l'Irak au courant de ce déploiement. Le déploiement a eu lieu à peine deux jours après une attaque au drone contre l'aéroport international d'Erbil dans le nord de l'Irak. Des sites d'information irakiens ont fait part des tirs ayant retenti lors du processus de la mise en service du nouveau système anti-aérien dans la base Victoria. La Russie va expulser 10 diplomates américains dans le cadre d'une riposte aux récentes sanctions. Expulsion américaine, a annoncé vendredi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Nous répondrons de la même manière. Nous demanderons à 10 diplomates américains en Russie de quitter notre pays, a déclaré le chef de la diplomatie russe lors d'une conférence de presse. Il a ajouté que la Russie pouvait faire face aux nouvelles sanctions américaines qui ne servent pas les intérêts des deux pays. Selon M. Lavrov, la Russie a par ailleurs recommandé à l'ambassadeur des États-Unis à Moscou, Jen Sullivan, de rentrer à Washington pour des consultations approfondies et sérieuses. M. Lavrov a également évoqué une série de mesures de représailles, telles que l'interdiction faite aux représentations diplomatiques américaines en Russie d'embaucher des Russes ou des citoyens d'autres pays que les États-Unis et un renversement des restrictions dans les déplacements des diplomates américains sur le territoire russe. Le chef de la diplomatie russe a aussi assuré que Moscou avait la possibilité de prendre des mesures douloureuses pour les entreprises américaines, mais les garder en réserve pour le moment. Washington a annoncé jeudi une nouvelle vague de sanctions à Moscou en riposte à une série d'actes qui lui imputent, dont des cyberattaques massives et des ingérences dans l'élection présidentielle américaine de novembre. Moscou dément de son côté toute implication. Le président américain Joe Biden a proposé en début de semaine à son homologue russe Vladimir Poutine un sommet en terre neutre. L'ONU et les autorités tunisiennes ont fait part ce vendredi 16 mars de la disparition d'au moins 40 migrants dans un naufrage survenu en Méditerranée. Les gardes-côtes de ce pays nord-africain poursuivent l'opération de recherche. Au moins 40 migrants se sont noyés dans un naufrage au large de la Tunisie alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Italie, ont indiqué vendredi les Nations Unies et des responsables tunisiens. Les gardes-côtes tunisiens ont jusqu'à présent récupéré 21 corps, tous des migrants africains, et secouru 3 personnes, ont indiqué des responsables tunisiens. Parmi les morts figure au moins un enfant. Le bateau a coulé au cours d'une traversée qui a commencé tard jeudi à partir de Sfax. Jusqu'à présent, les gardes-côtes ont récupéré 21 corps et les recherches se poursuivent, a déclaré Mouhar Mechri, directeur de la protection civile tunisienne. Le littoral proche de la ville portuaire de Sfax est devenu un important point de départ pour les personnes fuyant les conflits et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient. Le mois dernier, 39 migrants sont morts au large de Sfax dans un accident similaire. Des récentes violences intercommunautaires font une centaine de morts dans le sud-est du Tchad. Les derniers affrontements intercommunautaires dans la province tchadienne du Salamat ont fait une centaine de morts selon un communiqué de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, publié vendredi. Selon la presse locale, depuis mercredi dernier, la mort d'un jeune homme a provoqué des batailles entre les communautés arabes d'un côté et celles des Dagal et des Kibet de l'autre. Les affrontements ont éclaté notamment dans les villages de Si'ep et d'Ambarit et se sont poursuivis jusqu'à la matinée de vendredi, faisant un lourd bilan humain. En février dernier, toujours dans la même zone, des dizaines d'habitants ont trouvé la mort dans les violences intercommunautaires, a rappelé la presse locale. Selon des observateurs locaux, les conflits intercommunautaires sont devenus une grande menace pour la stabilité et la sécurité du Tchad. La gangrène a gagné toutes les provinces et les profondes exacerbées par le non-respect des règles de gestion du foncier, l'érection tous azimuts des entités territoriales, le laxisme et le parti pris des autorités locales, entre autres. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir les violentes attaques dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria, qui ont fait au moins 8 morts, ont alerté vendredi des agences humanitaires des Nations Unies. Les premiers rapports indiquent que 8 personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées, a déclaré Babar Baloch, porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR, lors d'un point de presse à Genève. L'agence onusienne indique que près de 65 000 Nigérians se sont enfuis à la suite d'une série d'attaques menées par des groupes armés contre la ville de Damasak dans l'état de Borno. Alors que beaucoup ont fui vers Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, et vers la ville de Guédam dans l'état voisin de Yobe, d'autres ont traversé la frontière pour se réfugier dans la région de Diffa, au Niger voisin. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Israël reconnaît son incapacité à affronter les drones. Le contrôleur de l'entité sioniste, Matanyahu Engelman, a révélé que les plans visant à protéger les bases et les installations contre la menace des drones n'ont pas été mis en œuvre comme prévu. De plus, la réglementation dans ce domaine n'est pas terminée et la plupart des pilotes d'avions n'ont pas besoin de permis de voler. Selon un reportage signé Lia Spiklin, publié par le site web de la chaîne 12 de la télévision israélienne, le rapport du contrôleur en question au sujet de l'establishment militaire a averti que l'entité n'est pas prête à faire face à la menace des drones. Elle souligne également que les installations de sécurité ne sont pas suffisamment protégées contre cette menace, d'autant plus que ces aéronefs ont parfois des usagers civils. Et il est à noter que dans les deux domaines, militaire et civil, les procédures n'ont pas été mises en œuvre comme prévu. De plus, le contrôleur se réfère dans son rapport aux zones de tir de l'armée israélienne, car il a constaté que de nombreux sites archéologiques avaient été endommagés pendant l'entraînement de l'armée dans le nord d'Israël. Il a également critiqué les procédures de nomination des cadres de l'autorité de l'industrie aéronautique, expliquant qu'Israël n'est pas bien protégé contre la menace des drones, a réitéré Lia Spiklin. Bien que le contrôleur en question ait averti en 2017 n'avoir constaté à l'époque aucune mesure appropriée pour résoudre le problème des drones en Israël, la police et l'autorité de l'aviation civile n'ont pas encore réglé le problème comme il se doit. De plus, la police n'a pas acquis de capacité nécessaire pour faire face à ces avions, malgré la menace qu'ils peuvent représenter sous forme d'incidents de sécurité soudain, a été déclaré cité par Rayal Yaoum. L'analyste a expliqué que l'armée israélienne a été équipée de systèmes anti-aériens pour moins d'un quart du montant requis pour protéger les camps et les installations de l'armée israélienne par rapport aux besoins présentés au département des opérations. En conséquence, le rapport du contrôleur indique qu'il y a une crainte qu'en cas de véritable menace de drone pour un camp ou une installation de l'armée, les forces de sécurité israéliennes ne seront pas en mesure de défendre correctement Israël. Elle a souligné que le rapport du contrôleur critiquait le manque de coordination entre les frontières de sécurité, malgré l'investissement de 87 millions de shekels dans le plan dit « réponse technologique à la menace des drones ». Bien que le budget initial prévu pour l'affaire fût de 150 millions de shekels, le plan présenté n'a pas été à la hauteur de la menace et des mesures de protection sécuritaire nécessaires, car ce qui est mis en place aujourd'hui n'est pas conforme aux recommandations de l'équipe nationale pour la protection contre la menace aérienne dans le département de l'armée de l'air, a-t-elle averti. De plus, en raison du désaccord entre l'armée de l'air et l'autorité de l'aviation civile, la procédure de réglementation pour l'exploitation des drones a été retardée et à la fin de l'examen, en particulier en juin 2020, il est devenu clair que la plupart des avions, à l'exception des drones en Israël, ne sont pas enregistrés et la plupart de leurs pilotes ne sont pas tenus d'obtenir des permis pour lancer leurs avions dans l'espace aérien israélien, a conclu la journaliste israélienne cité par Rayal Yaoum.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons en fait évoquer cette visite à Téhéran du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Mardi à Téhéran, Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a rencontré tout d'abord son homologue iranien Mohammad Javad Zarif et ensuite il a été reçu toujours à Téhéran par le président iranien Hassan Rouhani. Sergueï Lavrov est venu à Téhéran pour s'entretenir avec les autorités iraniennes des questions d'intérêt commun, de la coopération bilatérale, du plan d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, et des évolutions régionales, très particulièrement en ce qui concerne la Syrie et de l'Afghanistan, également des évolutions internationales. Et cette visite à Téhéran du ministre russe des Affaires étrangères est intervenue à un moment où l'Iran a signé tout récemment un plan de coopération de 25 ans avec la Chine. Et à Téhéran, Sergueï Lavrov a dénoncé les sanctions européenne contre l'Iran. À Téhéran également, Sergueï Lavrov a dénoncé une fois de plus les sanctions injustes imposées par les États-Unis contre l'Iran. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Moscou, un analyste politique et spécialiste des questions internationales, Monsieur Fabrice Beurre. Monsieur Beurre, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur votre antenne.
C'est un plaisir partagé. J'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Paris un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Elie Atem. Maître Atem, bonjour, merci et beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour également à Monsieur Beurre et merci de votre invitation.
Je vous en prie, Maître Atem, on va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Comme première question, quelle est en fait la portée, l'importance de cette visite à Téhéran et du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov?
Cette visite renforce l'axe, je dirais, entre la Russie, l'Iran, la Chine, Il faut dire, comme je l'ai toujours répété et dit, il s'agit de l'axe du nouveau monde libre qui s'oppose au monde hégémonique qui était légué par les États-Unis ou monopolisé, je dirais, par les États-Unis. Parce que quand on parle de l'Union européenne et des sanctions qui ont été prises, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, par l'Union européenne, il s'agit en fait des pions qui sont à la solde des États-Unis et qui essayent d'avoir une majorité au sein de cette institution pour reprendre, si vous voulez, toutes les décisions prises par les États-Unis. Donc, revenant à votre question, cette visite, elle met en exergue ce nouvel axe ou cette nouvelle, je dirais, bipolarisation qui se dessine de plus en plus dans le monde, et comme je l'ai toujours répété, avec ces deux mondes, le monde libre, le nouveau monde libre d'une part, et le monde hégémonique de l'autre part. Ce monde hégémonique édicte des sanctions, qui distribue des sanctions à des États ou des entités qui, juridiquement, ne doivent pas recevoir ces sanctions, et il laisse totalement libre tous ceux qui constituent ou qui créent un déséquilibre, une déstabilisation au niveau régional, au niveau international, et qui font des actes qui sont juridiquement, internationalement illicites, qui, par conséquent, sont éligibles à ces sanctions. Et je pense, par exemple, à la Turquie. La Turquie qui, comme tout le monde le sait, et le principal allié des États-Unis au sein de l'OTAN, la Turquie qui a menacé la sécurité dans l'est de la Méditerranée, mais également dans ses interventions en Libye, et malgré tout, les États-Unis sont passés outre, n'ont jamais réagi à ces exactions turques. Mais en revanche, ils distribuent des sanctions contre tous les autres États, contre tous les autres pays qui ne sont pas dans sa lignée politique, ce qui démontre qu'il y a une hégémonie américaine sur le monde. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la Russie et le président Poutine, qui a envoyé donc son ministre des Affaires étrangères, se lancent de nouveau dans cette création de ce nouveau monde libre, qui est celui qui veut défendre l'indépendance et la souveraineté des États.
Monsieur Burke, votre analyse, s'il vous plaît, d'autant plus que, comme je viens de le dire tout à l'heure, Maître Atem également vient d'y faire allusion, à Téhéran, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a dénoncé les sanctions européennes qui pourraient saper ces discussions en cours à Vienne entre l'Iran et le groupe 5 plus. Sergei Lavrov a fait cette déclaration à Téhéran à un moment où l'Iran est passé à l'enrichissement de 60% pour réagir à cet acte qualifié de terrorisme nucléaire qui a visé le site d'installation nucléaire iranienne de Natanz, M. Burr.
Effectivement, on a plusieurs éléments aujourd'hui qui s'affichent. Alors, dans un premier temps, rappelons rapidement le dégagement américain du retrait américain de l'accord sur le nucléaire, sanctions imposées à votre pays, chantage fait à votre pays pour que, en fait, vous baissiez totalement les armes, votre défense, et on sait très bien ce qui se passe lorsqu'on se désarme. On voit bien tous les pays de la région ce qu'il en est devenu. Et nous avons les Européens qui, malgré, dans un premier temps, froncé les sourcils, se sont totalement alignés, mais ça, ce n'est pas une nouveauté pour qui connaît la réalité de la caste dirigeante au niveau européen et dans tous les pays qui lui sont affiliés. Et aujourd'hui, nous avons effectivement, avec la nouvelle administration Biden, une soi-disant volonté de retourner aux négociations, mais avec en fait la même argumentation, à savoir on va renégocier un accord, et donc vous devez également accepter nos conditions. Les sanctions imposées par la présente administration n'ont pas été levées, et aujourd'hui on voit effectivement il faut les appeler pour ce qu'ils sont en réalité, excusez-moi cette réalité, mais les toutous américains, européens des Américains, aujourd'hui, disent, qui sont pourtant les garants de cet accord, donc valide des sanctions contre votre pays. Ce n'est pas évidemment une volonté de dialogue, mais bien un alignement total sur Washington. Et d'ailleurs, en particulier la France, avec la nouvelle administration, s'est totalement réalignée évidemment sur les États-Unis avec par rapport à toute friction qu'il pouvait y avoir auparavant, mais c'était un problème d'ego. Aujourd'hui, ils sont totalement réalignés puisque Macron est évidemment a été placé ici par le parti américain. Et donc aujourd'hui, on a effectivement cet Occident. Pour conclure sur votre question, cet Occident qui déclare vouloir négocier pour appliquer l'accord, mais qui en fait en est également sorti, on va dire, dans les faits, puisqu'il applique une politique américaine de pression et de sanctions, alors que le fautif, effectivement, dans l'histoire, c'est bien Washington et non pas l'Iran qui a appliqué au maximum qu'il pouvait le faire, on va dire, à moins d'être totalement naïf, l'accord dont il serait le seul, effectivement, à devoir avoir des obligations. Et la présence hier de Sergueï Lavrov, qui a rencontré donc le président du Parlement iranien, et au même moment, effectivement, où il y a eu cette attaque terroriste israélienne, une parmi les nombreuses, et la réaction donc iranienne, effectivement, la multiple réaction iranienne, d'ailleurs dans différents domaines, démontre effectivement que nous avons bien ce bloc eurasiatique aujourd'hui chacun, malgré les... bien qu'il puisse y avoir des déclarations diplomatiques des fois peut-être pas aussi franches ou qui restent diplomatiques, puisqu'elles sont diplomatiques, on voit bien que sur le terrain et dans la confrontation géopolitique, nous avons un bloc eurasiatique, Pékin, Moscou et évidemment Téhéran, et en particulier Moscou et Téhéran, sur lequel je pense qu'il y a un accord tacite dans beaucoup de domaines, Moscou ayant compris et Téhéran ayant compris effectivement le sérieux l'un de l'autre dans le cadre de leur coopération antiterroriste en Syrie. Donc on voit bien effectivement, comme cela a été indiqué précédemment, et je conclurai là-dessus, que nous avons bien deux camps, un camp occidental qui est hypocrite, qui impose ses sanctions, en fait ses ultimatums, ses blocus, et un camp qui en fait, eurasiatique, qui cherche, on va dire, des accords, simplement, on va dire, des accords normaux entre États souverains. Mais évidemment, le monde occidental ne peut vouloir des rapports d'ego à ego, puisqu'ils ont toujours eu l'habitude, évidemment, des rapports, on va dire, de soumission. Et l'Union européenne connaît bien cela, puisqu'elle se soumet totalement à Washington, en particulier dans le cadre de cet accord nucléaire.
Merci beaucoup, M. Beur. Vous l'avez dit, Sergueï Lavrov a rencontré également à Téhéran le président du Parlement iranien, M. Qalibaf. Merci infiniment de faire cette précision. Maître Atem, vous l'avez dit que voilà, nous assistons à l'émergence d'un nouveau monde libre dont l'objectif et la mission est de faire face à ce monde, si vous voulez, hégémonique. Peut-on interpréter dans ce sens, Maître Atem, la signature de ce récent accord de coopération de 25 ans entre l'Iran et la Chine, cette visite à Téhéran du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a insisté une fois de plus sur la nécessité de doper, de renforcer la coopération Téhéran-Moscou, et également cette fermeté et cette réaction ferme, M. Atem, de Téhéran à cet acte de sabotage qui a visé le site d'installation nucléaire de Natanz, un acte qui a été qualifié de terrorisme nucléaire, Maître Atem.
Effectivement, mais vous le savez, ce n'est pas le seul ou le premier acte terroriste que les États-Unis ou leur principal allié dans la région, Israël, commettent. Il ne faut pas oublier l'assassinat du général Soleimani. Il ne faut pas oublier non plus l'assassinat par ce qui a été dit éventuellement du scientifique Fakhrizadeh par également soit les services américains ou bien les services israéliens ou bien les deux. Il y a une série d'actes qui démontrent que ce sont les États-Unis qui commettent des actes internationalement illicites. Et qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? On voit un Iran qui est lui-même un État, qui est lui-même victime de ces exactions, de ces actes qui sont internationalement illicites et qui n'use pas de son droit de riposte, malgré le silence des Nations Unies, en particulier du Conseil de sécurité des Nations Unies. Car tous ces actes-là se sont qualifiés d'actes d'agression auxquels les Nations Unies doivent prendre des mesures contre les auteurs. Or, il n'y a jamais eu ni d'investigation, ni de recherche donc des criminels, ni de condamnation des responsables, par conséquent, de ces actes-là. Et donc c'est pour ça que je parle d'une hégémonie. Et c'est pour ça que je parle de l'autre côté, toujours, je l'ai toujours dit depuis plusieurs années, en me référant notamment aux idées d'Alexandre Dugin, qui est l'un des gens, des philosophes politiques les plus proches et influents sur le président Poutine, en parlant de ce pont qui doit être fait entre le monde européen, ou ce qu'on appelle le vieux continent, et puis le nouveau monde donc, qui s'ouvre à l'Est, c'est-à-dire avec la Chine. Et j'ai toujours soutenu cette idée qu'il y a une émergence d'un axe qui est celui qui va aller de Moscou à Téhéran et puis à la Chine, qui tous les trois, ont pour objectif de rétablir le droit international et de faire respecter cette primauté du droit international sur l'arbitraire politique et de ce fait contrecarrer l'autre axe qui fait des actes qui sont totalement illicites et qui violent le droit international public. Et cet axe du bien, c'est-à-dire l'axe sino-russo-iranien, a pour objectif de contrecarrer cette jungle, si vous voulez, et cette volonté de créer le chaos sur la scène internationale.
Monsieur Beurre, à un moment où à Téhéran, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, dénonçait des sanctions européennes contre l'Iran et y voyait une tentative de saper de ces négociations en cours à Vienne entre l'Iran et le D4 plus 1, et à un moment où Sergei Lavrov dénonçait les États-Unis sur toutes ces sanctions américaines contre l'Iran, un responsable de la Douma russe à Moscou a réclamé l'ouverture d'une enquête internationale. Pourquoi l'ouverture d'une enquête internationale? Il a en fait précisé que si l'implication du régime israélien dans cet acte de terroriste contre le site d'installation nucléaire de Natanz se précise, il faut ouvrir une enquête internationale. Ça montre, M. Beurre, la volonté, si vous voulez, de Téhéran et de Moscou de ne pas, en fait, laisser les autres imposer leur politique. Ça montre également cette fermeté, cette volonté de Téhéran de vouloir faire valoir ses droits, très particulièrement dans le domaine nucléaire, M. Beurre, n'est-ce pas?
Bien évidemment, on assiste aujourd'hui à cette opposition, oui, en fait, entre ce monde occidental qui fait fi du droit, qui fait fi des accords signés, qui fait fi des engagements, et qui utilise pour cacher cela, effectivement, la morale, le moralisme, la moraline pour caché derrière un lexique de propagande son attitude effectivement impérialiste. Et donc nous avons aujourd'hui dans les pays, pour les États-Unis parlent de l'ancien monde, mais qui est en fait le monde normal, à savoir des États souverains qui veulent travailler dans l'établissement effectivement de la paix, mais avec des règles. Les règles, c'est le droit international, et dans le cas précis, lorsqu'il y a une attaque terroriste, sous-entendu, et bah, même pas sous-entendu, dans la presse israélienne, ça a été même applaudi, donc il faut une enquête internationale, puisqu'ils sont aussi prompts à vouloir une enquête internationale à la moindre provocation des terroristes en Syrie, donc ils ne peuvent être contre une enquête internationale qui concerne en plus des installations nucléaires. On est vraiment quand même à un niveau certain de dangerosité qui ne peut être ne pas être pris en compte. Mais évidemment, on est aujourd'hui dans une opposition avec et vous ne trouverez les occidentaux hier sur cela. Ça passe à la trappe, on va dire. On ne va pas parler plus que cela. On ne va pas se dire, mais qui c'est qui a fait ça? On parle de cet acte terroriste et on passe évidemment à autre chose pour mieux noyer le poisson, comme on dit. Mais il est évident qu'aujourd'hui, d'un point de vue du droit, simplement de la légitimité, de la légalité, l'Iran, dans le cas précis, est un pays agressé depuis des années par des sanctions et un blocus américain qui est totalement illégal et soumis, on va dire, à l'avilissement et au manque de courage des Européens sur cette question. Et on voit bien avec cette reconfiguration géopolitique à laquelle nous assistons, où le monde se dirige de plus en plus vers l'Eurasie, en particulier vers l'Asie du Sud-Est, ce nouveau centre mondial, on voit bien évidemment qu'on essaye de retrouver un équilibre, et que cet équilibre entre les puissances eurasiatiques, ce sont des accords entre États normaux, à savoir des accords qui respectent le droit, les engagements qui ont été signés. Mais ça, et pour conclure, c'est évidemment quelque chose que l'Occident ne peut vouloir accepter, parce que ça sous-entendrait, je le répète encore, parler d'égal à égal, et dans leur logiciel, c'est impossible, puisqu'ils sont le camp du bien, évidemment. Ce sont les pays développés, on en rigole lorsqu'on verra les vrais chiffres dans quelques temps. Voilà la situation dans laquelle on est toujours dans ce basculement géopolitique où l'Occident, anciennement dominateur, aujourd'hui a bien du mal à faire perdurer celle-ci, mais continue dans ses vieilles méthodes à la suite, on va dire, des États-Unis, de blocus et de sanctions, puisque c'est aujourd'hui la seule politique qu'ils peuvent mener, puisque d'un point de vue militaire, le bloc eurasiatique, que ce soit Pékin, que ce soit Moscou, que ce soit Téhéran, ne sont pas des cibles si faciles, évidemment, à détruire. Donc nous sommes dans une situation où nous allons répéter en boucle, effectivement, ces provocations, ces sanctions, et je pense, et moi je l'ai toujours dit, qu'il faut construire des institutions alternatives aux ces institutions dites internationales qui sont en fait aux mains de l'Occident, afin, s'ils ne veulent pas vivre avec nous, eh ben, vivons sans eux d'une manière paisible et surtout en respectant des règles, afin que nos peuples puissent vivre tout simplement en harmonie et suivre leur propre chemin. C'est vraiment cette question de souveraineté des États et de la paix dans le monde dont il est question, mais qu'attendre de la part de l'Occident, dont, lorsqu'on regarde, l'OTAN et les États-Unis sont responsables de la plupart des guerres que nous avons, et en particulier au Proche-Orient. C'est bien ça dont il s'agit, c'est la paix ou la barbarie.
Maître Atem, une dernière question. Nous avons 2 minutes de devant. Peut-on dire que la réussite, cette visite en fait de Sergueï Lavrov en est la preuve, la réussite en fait envisage de compter sur l'Iran pour mener sa politique moyen-orientale et de faire face aux États-Unis?
Il faut dire, c'est que, à l'instar de l'Iran, la Russie est également victime de cette hégémonie américaine. Les sanctions qui sont prises à l'encontre de la Russie ne sont pas justifiées par des actes illicitement, internationalement, illicites. Et la même chose en ce qui concerne l'Iran. C'est-à-dire, ces deux grandes puissances sont en train, sont victimes, si vous voulez, de nouveaux actes d'agression qui sont les actes d'agression, si vous voulez, qualifiés comme des actes de guerre. Il y a une guerre qui se fait d'un côté et non pas de l'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas de riposte de la part des victimes, autrement dit, de la Russie ou bien de l'Iran à l'encontre des États-Unis. Troisièmement, en ce qui concerne la Chine, il y a une autre guerre que les États-Unis ont entamée à l'encontre donc, de cette grande puissance. C'est une guerre économique. Cette guerre économique, on la voit donc sur le terrain, qui de temps en temps se déclenche avec des interdictions de certains produits. D'où l'importance de ce renforcement, de ce nouvel axe qui s'oppose à l'axe du mal qui est prôné par les États-Unis. Yes. Et dernièrement, ça prouve qu'il y a une prise de conscience de la part de ces trois nouvelles puissances qui ont émergé depuis la fin de la bipolarisation en vue de reconstruire un monde de paix,
merci,
de prospérité et de respect de la souveraineté.
Maître Eliatem, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission et depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à Fabrice Beurre, analyste politique et spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Moscou. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Lors de la cérémonie de récitation du Coran tenue ce mercredi de premier jour du mois béni de Ramadan, le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a déclaré « Nous avons déjà annoncé la politique du pays concernant le plan global d'action conjoint. D'abord, les sanctions doivent être levées car nous n'avons pas confiance en leurs promesses. Ils ont rompu leurs promesses des dizaines de fois et ils ont même agi exactement à l'opposé de leurs promesses. Ils feront de même maintenant. Par conséquent, ils devraient faire ce que nous disons en premier et nous devons être certains qu'ils l'ont fait. Après cela, nous remplirons nos engagements. » Le guide suprême de la révolution islamique a ajouté « J'ai discuté de la politique du pays avec des responsables à la fois dans des réunions républiques et privées également par écrit. Il est clair quelle est la politique du pays et ce que les fonctionnaires devraient faire. Désormais, ils ont décidé de négocier pour mettre en œuvre cette même politique. Je n'ai aucun problème avec cela, mais ils devraient faire attention à ne pas laisser les discussions traîner en longueur ou à permettre à l'autre partie de trop allonger les négociations, car cela est nuisible au pays. » L'honorable Ayatollah Khamenei a fait remarquer « Lorsque les Américains parlent continuellement de leur volonté de négocier directement avec l'Iran, ils n'ont pas l'intention de négocier pour accepter la vérité. Leur but dans la négociation est plutôt d'imposer leurs faux mots, ce qu'ils font toujours. » Ils ne veulent pas écouter, accepter la vérité. Lors de certaines réunions privées des Européens avec nos fonctionnaires dont nous avons reçu, ils reconnaissent que l'Iran a raison quant à sa politique selon laquelle les sanctions devraient être levées d'abord. C'est parce que nous ne sommes pas sûrs de leurs promesses puisqu'ils ont déjà rompu leurs promesses dizaines de fois et ont agi exactement à l'opposé de ce qu'ils avaient dit. Ils feront de même maintenant. Par conséquent, ils devraient d'abord faire ce que nous disons et nous devons être certains qu'ils l'ont fait. Ensuite, nous remplirons nos engagements.
Il a poursuivi en disant « Parfois, les négociateurs européens confirment lors de réunions privées ce que l'Iran dit est correct et que les Iraniens ont raison. Mais quand il s'agit de prendre décision, ils suivent les États-Unis. Ils ne sont en aucun cas véritablement indépendants. Quant aux Américains, ils ont une attitude intimidatrice. Ils essaient d'imposer leurs exigences. Tel est le problème. » L'honorable Ayatollah Khamenei a rappelé, de plus, les propositions qu'ils avancent sont généralement si arrogantes et humiliantes qu'elles ne valent même pas la peine d'être examinées. Nous espérons qu'avec la grâce de Dieu, les fonctionnaires du pays avanceront sur cette question les yeux pleinement ouverts avec un cœur ferme en s'appuyant sur Dieu. J'espère que Dieu accordera ses bénédictions sur eux afin qu'ils rendent la nation heureuse, a souligné l'honorable Ayatollah Khamenei. Yémen a attaque contre la plateforme du Patriote et d'autres cibles dans le sud de l'Arabie Saoudite. 11 missiles et 4 drones ont visé ce jeudi 15 avril la plateforme du Patriote, la compagnie pétrolière d'Aramco ainsi que d'autres cibles sensibles dans la région de Jizan au sud de l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari. Il a précisé dans une série de tweets que l'attaque à l'aide de 7 missiles de type Sa'ir et Badr a visé et atteint avec précision Aramco et d'autres cibles. Ces missiles ont provoqué d'importants incidents sur le site d'Aramco. Et d'ajouter 4 drones de type Samad 3 et Kassifé de 2K ont aussi pris pour cible les dépôts des munitions et les plateformes du Patriot. Le général Sari a réitéré que ces opérations constituent une riposte à la poursuite des agressions et des crimes saoudiens contre le Yémen. Il faisait allusion au bombardement saoudien le 14 avril contre des civils à Saada. Des opérations plus douloureuses seront menées si le régime saoudien maintient son agression et son blocus contre le Yémen, a-t-il conclu. De nouvelles sanctions américaines ne favoriseront pas un sommet Biden-Poutine, selon le Kremlin. Le Kremlin a jugé que de nouvelles sanctions américaines contre la Russie, imminentes selon la presse aux États-Unis, ne vont pas favoriser l'organisation du sommet Biden-Poutine proposé par la Maison-Blanche. C'est évident que les sanctions probables dont il est question ne vont pas favoriser une telle rencontre, a estimé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, avant de souligner qu'il reviendra aux deux présidents de décider si cela empêchera ou n'empêchera pas le déroulement du sommet. Nous condamnons toutes les initiatives de sanctions, nous les jugeons illégales, a-t-il ajouté. Selon la presse américaine, les États-Unis vont annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie sous prétexte de représailles aux ingérences dans des élections et d'un vaste scandale de piratage informatique. Ces mesures devraient inclure l'expulsion de ressortissants russes affectés, une trentaine d'entités russes, mais aussi la vente d'obligations d'État. Le déploiement prévu de 2 navires de guerre américains en mer Noire annulé. Les États-Unis ont renoncé à déployer cette semaine 2 navires de guerre en mer Noire via les détroits turcs en pleine tension entre l'Ukraine et la Russie, ont affirmé des responsables et médias turcs.
Des sources diplomatiques turques ont déclaré que le passage prévu d'un premier navire américain mercredi n'avait pas eu lieu. Et selon l'agence étatique Anadolu, qui cite d'autres responsables turcs, le passage des navires prévus mercredi et jeudi a été annulé et Ankara n'a pas été informée d'un éventuel report de ce déploiement. Les autorités turques avaient annoncé la semaine dernière qu'elles avaient été notifiées par les États-Unis du passage le 14 et 15 avril de deux navires de guerre par les détroits de Dardanelles et du Bosphore en direction de la mer Noire. La convention de Montreux de 1966, qui régit la circulation dans les détroits turcs, oblige en effet les pays non riverains de la mer Noire d'annoncer 15 jours au préalable le passage de leur navire. L'annonce de ce déploiement était intervenue dans un contexte de flambée de tensions entre la Russie et l'Ukraine. Et la décision d'envoyer des bâtiments de guerre avait été accueillie comme un signe de soutien de Washington à Kiev. L'annulation de cette manœuvre annoncée par les Turcs intervient au lendemain d'un entretien téléphonique entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine. Eh bien, chers amis, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.